De retour avec Pascal Parent, qui a été une personne qui a été victime d'agression à caractère sexuel et qui a décidé de dénoncer et d'aller aussi dans ce processus de justice. Elle va avec nous témoigner de son vécu. Bonjour.
Bonjour.
Parlez-moi un petit peu de MeToo, moi aussi, ce mouvement-là que vous avez vu apparaître et qui perdure dans le temps. Est-ce que ça vous a... ça vient brasser vos émotions, j'imagine?
Bien, chez moi, oui, ça a brassé des émotions, positivement, dans le sens où il y avait enfin plus de victimes qui en parlaient de la cause. Ça devenait un sujet un peu moins tabou, quoique dans les petits milieux, on ne veut pas trop entendre parler de ça, puis on ne veut pas trop savoir qu'est-ce qui se passe chez le voisin. Sauf que de rendre ça médiatique, bien, ça fait parler de la cause, et c'est devenu mon cheval de bataille, les agressions à caractère sexuel, pour que ça cesse, ou à tout le moins que les victimes aillent chercher de l'aide. Moi, j'ai fait mon processus avant le MeToo, là, plus qu'un an avant le MeToo, et que le MeToo apparaisse l'automne passé, pour moi, ça a été positif, mais je vous dirais que dans mon entourage, ça a pu être négatif aussi. La personne qui partage ma vie, pour lui, c'était tannant de toujours voir ça à la télévision, de toujours ramener des nouvelles victimes. Une journée après l'autre, c'était Roson, après ça, ça a été Salvaille, puis là, c'était telle victime et telle victime. Fait que nous, on a choisi d'arrêter d'écouter les médias pour que lui puisse terminer son processus, parce qu'il m'a soutenu, il m'a aidé. Et là, il y avait comme une écœurite d'entendre parler de cette cause-là. Puis c'est normal, c'est correct, il a fallu que je respecte ça. Fait que moi, je me prenais mes informations autrement que quand il était à côté de moi pour appuyer cette cause-là et aider à cette cause-là.
Dites-moi, pour vous, ce que vous avez vécu, c'est il y a une trentaine d'années, donc vous avez décidé de dénoncer il y a 2 ans, là, c'est ça
ouais,
seulement?
Ben, moi, ça s'est passé quand j'avais 12-13 ans, donc c'est il y a plus de 30 ans que ça s'est passé, et j'avais une petite boîte à souvenirs à l'intérieur de moi qui faisait que je la gardais. Et à chaque fois qu'elle voulait s'ouvrir, là, je la ravalais et je la mettais à l'intérieur de moi, parce que ça touchait une personne de ma famille et ça impliquait quelqu'un qui tu sais, il n'est plus dans ma famille, mais il a déjà été dans la famille, donc ça impliquait des enfants, ça impliquait des gens dans ma famille. Donc, tu ne veux pas que ce noyau-là éclate. Tu ne veux pas faire de la peine à personne et tout ça. Donc, j'ai ravalé pendant toutes ces années-là et jusqu'en mars 2016, où je n'ai plus été capable de retenir ma petite boîte à souvenirs, elle a éclaté et je ne dormais plus. C'était continuellement dans mes pensées. Je suis allée chercher de l'aide au Calax, premièrement. Et le Calax a été là pour, comme Marilyn disait tout à l'heure, le dévoilement, m'écouter. La personne m'a écouté, m'a entendu et m'a cru. Dans tout mon processus, parce que oui, il y a des gens qui font « ben garde, t'exagères, t'inventes ou quoi que ce soit ». Donc, se sentir appuyé et cru, ça fait du bien pour la victime. Donc, il faut aller chercher de l'aide. Et ensuite de ça, ben il y a eu tout le processus. Moi, j'allais chercher de l'aide pour moi, mais j'allais pas pour dénoncer.
OK.
Mon but premier n'était pas d'aller à la justice dénoncer la personne parce que, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de ma famille. Je ne voulais pas que ça ait des impacts et tout ça. Et de fil en aiguille, pendant mon processus de guérison, ça en est venu que j'ai été porter plainte à la police. Et de là, ben, la police, après ça, le procureur de la couronne, le juge, l'avocat de la défense, tout ce monde-là, la personne se retrouve devant tous ces gens-là et doit répondre souvent aux mêmes questions, à des questions que tu dis que ça n'a pas rapport avec les faits qui ont été faits, mais c'est l'avocat de la défense a un rôle à jouer, il a son travail à faire, et c'est tout pour miner la crédibilité de la victime. Donc, il faut être bien entouré, il faut avoir été préparé pour ce processus-là, et le CALACS est là pour aider les personnes à ce niveau-là. Puis tu peux aller chercher de l'aide psychologique aussi à côté et tout ça, et le CAVAC est là pour nous aider aussi pour ce qui est processus judiciaire, comprendre là, qui fait quoi et tout ça. Là. Mais vraiment, au niveau des émotions, il faut être préparé pour ça.
Quel a été le déclic? Pourquoi c'est ça? Vous dites, j'ai eu ça 30 ans dans ma tête, cette petite boîte-là, t'es fermée. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour décider d'aller vous confier, justement, et de trouver de l'aide?
Bien, en fait, moi, j'étais dans un processus de retour à l'école. J'ai étudié avant, je suis comptable de formation, la première formation. J'ai fait un retour à l'école en éducation spécialisée et c'est une technique qui t'amène à travailler sur toi, à travailler sur tes émotions, ces choses-là. Donc, à différents cours, tu travailles certaines choses et en rendu à la dernière session, j'ai eu à travailler avec un jeune, tu sais, un jeune qui avait vécu ce genre de difficulté-là, ce genre de problématique-là. Et en regardant son dossier, je voyais des choses que moi j'avais vécues, des certains patterns qu'il avait développés. J'ai fait tabarouette, je regarde un miroir. Et de là, ben, la boîte à souvenirs a explosé et j'ai pu être capable de la contenir et de la garder à l'intérieur. Donc, il a fallu que j'aille chercher de l'aide. On m'a conseillé. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis ramassée au Calax. J'ai rencontré une personne merveilleuse qui m'a soutenue, qui m'a écoutée, qui m'a cru. Parce que la première rencontre, c'est vraiment la plus difficile. C'est-à-dire, j'ai été victime d'un acte à caractère sexuel et j'ai besoin d'aide. De là, dire ça, c'est comme libérateur, mais en même temps, ça peut te faire mal encore plus. Mais tu sais, il y a un côté libérateur. Pour sentir le côté libérateur, il faut avoir fait, faut travailler fort.
Oui, c'est vrai que ça doit être assez difficile et pénible de raconter. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous dites, c'est quelqu'un qui m'a cru. Avez-vous l'impression que dans ces cas-là, souvent dans la société, les victimes ne sont pas suffisamment cru, comme vous le dites, ou...
Bien, comme c'est un sujet qui est tabou, comme c'est un sujet où on veut pas nécessairement en entendre parler, puis souvent c'est dans la famille, ça détruit des familles. Moi, ma famille m'a cru, m'a soutenu. Par contre, ça peut détruire des familles. Si c'est un grand-père qui a fait de l'inceste ou ces choses-là, bien, la grand-mère peut dire « je te crois pas », puis la famille se détruit là, à ce moment-là. Fait que il y a toute cette pression-là sur la victime et de se sentir écouté. Sans jugement, sans « Hey, tu vas faire de la peine à un, tu vas faire de la peine à l'autre », mais juste écouter l'histoire de la victime, de sentir cette écoute-là, ça fait du bien. Moi, je l'ai eu proche de moi, mais je me mets à la place de d'autres victimes qui sont seules ou tu sais, qui sont plus isolées et tout ça. C'est vraiment important là, d'aller chercher de l'aide.
Puis le sentiment de culpabilité qu'on entend souvent dire des victimes, qui, à un moment donné, veulent parler, ils parlent, puis à un moment donné, vont aussi avoir un sentiment de culpabilité qui arrive soudainement. Est-ce que vous avez passé à travers ça aussi? Ou...
Bien, je dirais que oui. Puis encore aujourd'hui, il y a une petite partie de moi qui vit la culpabilité à certains moments parce que, comme c'était familial, bien, il y a certaines choses qui arrivent ou certaines paroles qui sont dites par des gens, puis là, tu fais... C'est de ma faute si on est allé en justice. C'est pas de ma faute si on est allé en justice. C'est pas de ma faute si le juge a déclaré mon agresseur coupable et l'a envoyé en prison. C'est le juge qui a pris cette décision-là sur un dossier que moi, j'ai porté plainte.
Donc, il faut passer par-dessus ça, là, vraiment. Là, ça doit être une étape très difficile.
Bien, c'est très difficile, c'est très long. Marilyn disait que ça peut être échelonné sur plusieurs années. Mon système judiciaire, on a calculé, c'est 10 mois que ça a pris entre le moment de la dénonciation et sa première journée en prison. Là. Donc, c'est rapide, là, 10 mois. Là. Je vous dirais, ça peut paraître long pour certaines personnes, mais c'est rapide. Tandis que pour d'autres, ça peut être échelonné sur 1 an, 2 ans. Donc, t'es 1 an, 2 ans à répéter cette histoire-là à un nouvel avocat ou à un nouveau juge, à un nouveau procureur de la couronne parce que ça change. De chaise. Okay. Donc, faut que tu répètes tes affaires et cette culpabilité-là, elle est toujours remise en doute parce que le policier, il a un travail à faire. C'est beau d'aller dénoncer un acte à caractère sexuel, une agression, mais lui, il doit vérifier si c'est vrai, si c'est crédible. Fait qu'il te pose des questions qui rentrent dans ton intimité.
Oui.
C'est-tu de ma faute si ça m'est arrivé? C'est-tu parce que je portais telle affaire et tout ça? Non. Il n'y a personne qui mérite, que ce soit un homme ou une femme, qui mérite de vivre une agression à caractère sexuel. Par contre, eux, il faut comprendre, avec le recul, je le sais maintenant, eux ont un travail à faire. Ils ont des questions à poser. On se met dans la peau de la personne qu'on aime le plus, exemple, puis qui est accusé d'un tel acte, puis il ne l'a pas fait. Bien, on veut qu'il y ait des gens pour le défendre. Donc, c'est normal, eux, ils ont un travail à faire. Le procureur de la couronne, il va étudier ton dossier, il va te rencontrer, il va te... Lui aussi, il va te mettre en doute parce qu'il sait c'est quoi les questions que l'avocat de la défense va te poser. Donc, il veut juste voir si tu vas être assez solide quand tu vas arriver en cours. Est-ce que tu vas être assez solide pour répondre de toutes ces... Tu sais, de raconter ton intimité encore une fois, là.
Ouais.
Fait que, oui, cette culpabilité est là, et c'est une grosse marche à passer dans toute l'histoire. Mais quand tu arrives en haut de la marche, ça fait vraiment du bien.
Puis l'aspect de la crédibilité, tantôt, vous avez, dans le processus judiciaire, vous avez fait allusion à ça. Ça aussi, là, parce que vous faites questionner, puis est-ce que c'est difficile, ça? Donc, Dans le fond, vous dites, on tente de miner votre crédibilité.
Ben, on tente de miner notre crédibilité, puis je parle pour moi, là. Moi, ça faisait 30 ans. Donc, l'avocat de la défense me posait des questions sur la couleur, exemple, d'un meuble ou ces choses-là, parce que ça avait rapport au fait qui est arrivé. Ouais. Puis je m'en souviens pas. Est-ce qu'il faisait beau dehors? Est-ce que c'était l'été ou c'était l'hiver? Okay. Ce détail-là, dans ma mémoire à moi, d'il y a 30 ans, je l'ai pas. Fait que là, ben c'est pas possible que là, il te remet en doute en disant, c'est pas possible que tu te rappelles pas si c'était l'hiver ou l'été, alors que tu te rappelles que l'agresseur a fait tel geste. Ben okay. Oui, il faut être assez fort, il faut avoir été préparé à expliquer que moi, ce que je me rappelle, c'est ça. Et c'est au juge, après ça, de décider si c'est crédible ou non crédible. Ouais. Puis, il y a des victimes, sûrement, qui arrivent. Je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, mais il y a des victimes que leur agresseur, leur présumé agresseur, est déclaré non coupable sous faute de preuves. Donc, le juge va lui dire à la personne, vous êtes déclaré non coupable sous faute de preuves, mais il reste que cette personne-là dit avoir vécu ça, mais vous êtes non coupable aujourd'hui parce que je n'ai pas les preuves pour vous accuser. Ça reste pas que la victime est menteuse ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste qu'il n'y a pas assez de faits pour ou que l'avocat de la défense a tellement bien fait son travail ou tu sais, la personne est non coupable. Sauf que la victime reste avec son souvenir et ce qu'elle a vécu. Il faut l'aider, cette victime-là. Là.
Le processus judiciaire, c'est vraiment une grosse, grosse étape là, pour les victimes, là, parce que ça peut aboutir, oui, dans votre cas, bien, ça a été reconnu coupable, mais l'aspect que vous venez de mentionner peut se produire aussi.
Mais... Tu peux arriver devant un policier qui n'a pas nécessairement la bonne formation ou qui manque un peu de tact ou quoi que ce soit quand tu vas te dénoncer. Ils font un excellent travail, là, les policiers, mais chacun a sa façon d'interagir et ces choses-là. Donc, il faut avoir été préparé à aller les rencontrer. Moi, l'intervenante que j'ai vue avant de me rendre à la police m'a dit « Prends le temps d'écrire. Prends le temps d'écrire qu'est-ce que tu veux dire pour être sûr quand tu vas arriver, tu vas avoir tout, t'oublieras rien, tu vas penser à tout et tout ça. Ben, » si elle ne m'avait pas conseillé ça, il y a peut-être des détails que j'aurais oublié de dire aux policiers. Là.
Bon, et je terminerai avec ça parce que, bon, vous avez été victime, vous ramenez ça, vous dénoncez, on fait le processus judiciaire, mais... Pendant ce temps-là, là, à partir du moment où vous entrez dans le processus, là, on fait quoi? Donc, vous êtes obligé d'arrêter de travailler? Tout cet aspect-là? Là.
Dans mon cas, j'ai été à la police en juin 2016. À ce moment-là, j'étais apte à continuer à travailler, il n'y avait pas de problème. Mais en octobre, novembre, au moment où j'ai su que mon agresseur plaidait non coupable aux agressions, aux dénonciations que j'ai faites, là, je savais que j'aurais à passer par l'enquête préliminaire et après ça, un procès. Ben là, tout ça peut être rallongé aussi. Fait que là, tu ne sais pas à ce moment-là que ça va aller vite, là, comme ça a été dans mon cas. Et mon médecin m'a déclaré inapte au travail parce que j'étais habitée par ça. C'était continuel. Je pleurais tout le temps. Je dormais plus. Donc, tu te ramasses. La victime se ramasse à ce moment-là sans emploi. Si elle n'a pas d'assurance collective ou quoi que ce soit pour soutenir financièrement, faut que tu te revires vers un moyen pour t'aider. Donc, tu vas au CAVAC. Le CAVAC te réfère à l'IVAC. Tu as des procédures à faire à ce moment-là et tout ça. Et ça aussi, ben, c'est une autre partie du dossier où c'est possible d'avoir de l'argent. Puis il y a moyen d'être dédommagé parce que tu as été victime d'un acte criminel.
Mais c'est encore un poids qui s'ajoute.
C'est des formulaires à remplir. Moi, j'ai une certaine éducation là, que j'ai eue de remplir un formulaire, de le voir et de pas de savoir en gros qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Là. Mais j'ai eu besoin d'aide pour savoir exactement à quel, tu sais, dans cette case-là, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive et tout ça. Fait que je me mets à la place d'une victime qui est envahie par ses émotions, qui est envahie par toutes les pressions de la famille ou quoi que ce soit,
Processus judiciaire en plus.
Le processus plus judiciaire, puis là, t'as ça à remplir. Tu peux abandonner, puis tu te ramasses avec plus de ressources, parce que moi, je me suis battue, là.
En terminant, le message que vous lancez aux victimes, parce qu'après vous écouter, là, ça n'a pas été facile. Alors là, est-ce que les victimes vont se dire, ben c'est un gros processus qui est dit, tu sais. Donc, c'est quoi le message que vous leur dites, là?
Moi, j'encourage les victimes à aller chercher de l'aide. Ça, c'est mon message que je donne maintenant. Pas nécessairement d'aller porter plainte.
Commencez au moins par ça, là.
Allez chercher de l'aide. Les CALAC sont là pour ça. Et si vous avez des psychologues ou des choses comme ça, ne pas rester seul avec son secret. Surtout avec ce qu'on voit, le MeToo, c'est principalement du harcèlement en milieu de travail. Ouais. Ça peut être un collègue, ça peut être l'employeur. Donc, tout ça, ça amène des problématiques et des stress que tu n'as pas besoin. Va chercher de l'aide. Le CALAC, c'est là, puis c'est confidentiel. Ce que tu dis là, ça ne sera pas su sur la place publique. Et si ça en vient à un processus judiciaire, bravo, j'encourage les gens à le faire, parce que c'est là que l'agresseur va avoir une sentence ou va avoir au moins il va avoir un processus judiciaire qui va reconnaître ce qu'il a fait, puis il y en a peut-être d'autres. Là. On n'est peut-être pas les seules victimes de cette personne-là. Il y a peut-être d'autres victimes qui vont être appelées à dénoncer aussi. Et le fait de voir une victime le faire, ben, peut amener d'autres personnes. Moi, j'ai tout fait le processus en plus de... Parce que j'avais 12-13 ans, il y avait un interdit de publication de mon nom. J'ai fait lever l'interdit de publication pour pouvoir en parler aujourd'hui, pour pouvoir en parler à tout le monde, pour aider cette cause-là. Parce que sinon, j'aurais pas le droit d'être ici, de vous parler de tous ces faits-là. Mais j'ai tout fait ce processus-là pour aider d'autres victimes. Et j'encourage, oui, les victimes à aller chercher de l'aide. Et si ça les conduit au processus judiciaire, bravo, tant mieux, mais ça prend de l'aide pour le faire. C'est mon seul message.
C'est le départ.
Que je dirais. Là.
Pascal Parent, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci vraiment d'avoir partagé ça avec nous.
Merci à vous.